I entre Fuix i Lleida, sóc qui per l'una l'altre ganyo. I entre Fuix i Lleida, hi ha tot per es canviar. Nos eren d'oblidats, gaire bé de negats. Ara tenen la clau de cada viro franco. Ya que los montaños tan altos la pensaron, no empachaban de veces los amores enteros. Ahora saben per un pasa, sin gaire nos atardan, per un túnel tut de lung, per veces los amores un canto no se relambi, los volúmenes de mai, la montaña regalados, muchos maures o blancs, muchos negres o secs, muchos seguirs o serrats, aquí los camis de ver. Llebreros de Garuno, aquí lo sai, aquí lo lai, a Matavia o l'Albonais, a Sans, lo vespre sarungo, a Viñunet de Cataruño, Barceluno de Gascuño, de la Oraguesa Penedès, aquí los camis oferts, de la Palmo a Palmo, de grau sal grau, de Montalbà a Montalbà, aquí los camis no ves. Ara saben per on passar, sen gaire nos atardan, per el túnel tot de lung, per besen les amors un zun. Ara saben per on passar, sen gaire nos atardan,
Solano ten son ubac. Tout ubac ten sa Solano. E cadu no sap. Am nau, e lo Bernat, lo Pujol, e mai lo Prat. Maria de Rius, Maria de Reus, e la Núria. Fabit de Carcassuno, Aixà de Tarragona, los colombians de Girona, los africans de Tarazona, e los andaluces de Jaén.
Ce sont déjà les mots d'Alem sur Garcia que nous entendions mis en musique par Serge Lopez. Alem Garcia, sur Garcia que nous accueillons ce matin pour la présentation de son dernier ouvrage.
Bien le bonjour.
La convivencia. J'ai essayé de prononcer correctement,
oui,
mais il
bien.
Paraît que ce n'est pas grave.
Non.
Si on met un peu de A, un peu de E à la fin, non, à la place du O ouvert.
Il y a de la fluctuance.
Il y a de la fluctuance due à, aux diversités
voilà.
du territoire linguistique
voilà.
De l'Occitan.
Voilà, oui, tout à fait.
Donc ça tombe bien parce que cette tolérance voilà. est au cœur de...
Fluctuance et fluidité.
C'est ça, hein et aussi une tolérance, une intercompréhension.
Bien sûr, absolument.
Et c'est un peu l'objet de ce livre que tu viens nous présenter ce matin.
C'est pas la norme qui compte, c'est l'intercompréhension, c'est la connexion.
Voilà, donc c'est de ça qu'il s'agit dans ce livre. Donc Alem, tu es essayiste, tu es traducteur, de quelle langue ?
Bon, essentiellement de l'occitan au français. Mais ça m'arrive aussi, quelquefois, de l'espagnol ou du catalan au français également, ou en occitan, ça dépend.
Tu es présenté aussi comme un occitan engagé, un poète, un philosophe, mais tu as aussi écrit des livrets d'oratorio et d'opéra ballade qui expliquent sûrement ta connexion avec les troubadours de la scène toulousaine actuelle.
Mmh, tout à fait. N'oublie pas non plus cette connexion qui est importante. Hein. C'est une référence d'ailleurs très ouverte, hein, puisqu'on parle de la civilisation des troubadours. Ce qui veut dire que c'est connecté au monde.
Et cette connexion, tu la mets en œuvre en particulier là, dans ton actualité, puisque ce livre qui est sorti le 5 février 2024,
oui.
publié aux éditions Trobavox, tu le présentes dans une formule appelée « Sera do convivencio ».
Oui.
Où il y a une partie présentation de ton livre suivie d'un concert.
Oui, qui donne aussi des éléments de convivencia, hein, dans les mots, et puis aussi dans la musique peut-être. Hein, voilà.
Et donc ces soirées auront lieu très bientôt, le vendredi 8 mars à 20h30 à Toulouse, à Saint-Barésil.
Oui.
Et puis le 16 mars à l'île Jourdain, à la MJC, oui. la Maïzou.
C'est ça.
Et le 20 avril à Fiac, on te reçoit aujourd'hui pour essayer de comprendre avec toi ce que tu as voulu développer. C'est vrai que ce mot, alors qu'on écorche, mais il paraît que c'est pas grave, et on l'entend partout à Toulouse, il est repris par les institutions. Il y a même un festival qu'on aime beaucoup et qui, je pense, illustre assez bien ce que tu mets dans ce concept. Mais finalement, c'est bien de se poser et de s'interroger, en particulier sur les origines de ce mot et ce que tu as pu retracer historiquement comme particularité de ce terme.
Alors, ce livre est le résultat aussi de 20 ans de travail sur le terrain, avec les associations, avec des organismes, que ce soit ici en Pays d'Oc ou à l'étranger. Donc, c'est ce résultat à partir d'un concept. Et ce concept, bon, convivencia, ça vient du latin hein, au départ ici. Convivir, c'est-à-dire vivre ensemble. Mais vivre ensemble, ce n'est pas suffisant, parce que depuis Adam et Ève, on vit ensemble. Hein. Et alors ? Et comment ? Et pourquoi ? Etc. Toutes les questions qui se posent autour. Donc on a réfléchi ensemble. Et ça avait déjà été avancé côté espagnol, parce que c'est un des plus grands historiens espagnols du siècle dernier, dans les années 40 à peu près, qui a reconsidéré l'histoire de l'Espagne. C'était mal vu à l'époque. Hein, voilà. Et notamment à l'Andalous, l'histoire de l'Andalousie médiévale. Et bien sûr, il s'est aperçu qu'il y avait là un essai, je dis bien un essai, c'était pas parfait, mais par rapport à l'époque, c'était important, de coexistence entre plusieurs peuples, plusieurs langues et plusieurs religions. Donc,
c'était la fameuse Espagne des trois cultures.
Oui, voilà, qu'il faut regarder avec beaucoup plus de circonspection. Mais il y a eu quelque chose de tout à fait important. Et puis, cette réflexion espagnole de Madrid est passée par Barcelone, bien sûr. Et Barcelone était en contact dans les années 50-60 avec les Occitans, et notamment les universitaires occitans, dont Charles Camprou, qui a le premier pris cette parole et l'a adaptée à la civilisation des troubadours, notamment, et à notre civilisation contemporaine. Voilà, mais c'était un point de vue un peu idéaliste, idyllique.
Et là, tu parles des historiens assez récents, mais oui. Tu montres aussi dans ton ouvrage que les communications entre les Occitans et ces différentes composantes de la société espagnole étaient réelles et permanentes.
Oui, et bien sûr. Et puis, on a rien appris à l'école de ça. Et notamment que pendant 4 siècles, du 8e au 12e, d'ailleurs c'est l'objet de mon prochain ouvrage, à travers les Pyrénées, et il y a évidemment interférence. Interférence.
Oui, tu dis que les Pyrénées n'étaient pas une frontière, non. Mais un lieu d'échange.
Non, c'est une frontière politique récente dans l'histoire. Et d'ailleurs, les Pyrénées, elles s'appelaient, à l'époque médiévale, on les appelait surtout « los ports » en catalan, c'est-à-dire le port, qui veut dire en occitan le col. Et on connaît bien le plus fameux, c'est le « Somport », par exemple, le port. Du sommet, le grand port par excellence. Et als ports en catalan, los puertos en espagnol, et en arabe également, quand ils ont demandé comment s'appelaient ces montagnes, eh bien, on leur a dit les portes. Et donc, ils ont appelé Jbel, la montagne al-Bortat, la montagne des passages. Ce qui veut dire que pendant 4 siècles, les terres toulousaines, au sens large, et al-Andalus, sont limitrophes sur le versant sud pyrénéen. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien sûr, il y avait des petits conflits de territoire, de prise de ville, prise de rivière, etc. Mais pendant 4 siècles, ça a dû représenter à peu près 6 mois de conflit. Qu'est-ce qui s'est passé pendant le reste du temps? Eh bien, il y a eu des interférences. Et surtout, le commerce joue un rôle très, très important. Les produits qui sont fabriqués et qui nous viennent quelquefois du Moyen-Orient, de Palestine, aussi. La mousseline, elle vient de Mossoul. Gaza, c'est la gaze, etc., etc. Donc on veut se l'approprier parce que c'est souvent des objets un peu luxueux. Et donc ça passe à travers les Pyrénées.
Et on remarque dans ce que tu développes qu'il y a cette préoccupation en coprésence de personnes, enfin de peuples différents, de langues différentes, etc. Le colon ou l'occupant ou l'envahisseur va chercher évidemment à légiférer pour exclure l'autre, mais assez rapidement, il y a un pragmatisme qui s'impose. Alors, je ne sais pas si c'est le fait du commerce ou d'autres réalités, simplement que les gens se côtoient et qu'ils créent des liens et qu'il faut faire avec. Mais en tout cas, on sent ce mouvement de balancier entre un moment d'exclusion de l'autre, surtout s'il vient d'être conquis, et ensuite un pragmatisme qui essaie de faire avec la réconciliation de fait sur le terrain. Je ne sais pas si je traduis bien ta pensée.
Alors, c'est vrai que c'est un problème immémorial, celui que tu poses là. Parce que tout peuple qui conquiert un territoire se trouve dans une situation coloniale, de fait. Parce que si on conquiert un territoire, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on fait de celui qu'on a conquis? En général, on l'infériorise et on change les élites. Et puis on va imposer et sa langue. On transforme en général les noms des fleuves, les noms des montagnes, les noms des villes. Et puis on va changer le nom et les prénoms des gens, etc. Et on va imposer ses mœurs, on va imposer sa religion, on va imposer... Tout ça, c'est des phénomènes coloniaux. Et hélas, ils sont très très anciens. Puisque déjà à Mésopotamie, les civilisations assyriennes et mésopotamiennes de Babylone et babyloniennes n'étaient pas tendres par rapport au peuple dont ils étaient victorieux. Et donc jusqu'à aujourd'hui, ça continue.
Voilà, donc tu parles du aujourd'hui parce qu'on est parti sur des problématiques historiques et c'est normal puisque ce terme ne vient pas de nulle part et s'est nourri d'autres pratiques dans des espaces proches, limitrophes comme tu disais. Mais ton livre, il est très très ancré sur l'actualité et il nous présente la réalité de la France, là aussi, en des termes qui ne sont pas souvent enseignés et qui ne sont pas souvent donnés.
Pas du tout. C'est-à-dire qu'il y a une ignorance de certains faits. Et là, c'est pour ça que j'ai fait un chapitre important, parce que souvent, les intellectuels français ne disent pas d'où ils parlent. Ils parlent déjà, du moment qu'ils parlent en français, ils sont universels.
Voilà, c'est ça, cette histoire de l'universalisme français.
Voilà, c'est pas vrai, ils parlent bien de quelque part. Ils ont une grille de lecture. Donc, j'accepte de faire partir le propos d'un endroit précis de la Terre, dont on peut parler de n'importe quel endroit de la Terre, et parler de façon universelle. Et donc, ce pays... il faut en regarder déjà la géographie, reconsidérer la géographie. Ici, en Pays d'Oc, c'est un carrefour. Mais pourquoi ? Parce que c'est l'isthme le plus étroit entre la Méditerranée et l'océan Atlantique. Ça se repère très facilement sur une carte du monde, ici. Et Toulouse occupe cet espace un petit peu central entre les deux. Mais c'est aussi le passage obligatoire, et on le voit bien en termes géographiques et terrestres, entre la France du Nord et l'Europe du Nord et le Maghreb. On est obligé de passer par là. De même que c'est le passage obligatoire entre l'Espagne et l'Italie. Ce qui veut dire que cette histoire de carrefour fait que ça a été aussi une histoire de migration incessante et qui sont à la base de la culture occitane contemporaine.
Est-ce que tu m'autorises à lire un court passage de ton livre qui se situe au début, hein, oui, dans un petit chapitre qui s'appelle « L'impasse française » et qui dit « La France républicaine découvre avec retard et anxiété la réalité pluriethnique, plurilingue et pluriculturelle de son propre territoire. Elle reste prisonnière de ce que nous appelons l'équation suprême, à savoir un État égale une seule nation, un seul peuple, une seule langue, une seule culture, une seule histoire, dans le cadre d'une république une et indivisible. Nous sommes là devant une théocratie républicaine qui a généré une société corsetée, une culture du mépris et du dédain envers l'altérité. La contrainte de la connaissance n'est pas l'ignorance, mais les certitudes absolues, et certaines certitudes tuent. » Moi, ce passage me parle beaucoup, surtout aujourd'hui avec ce contexte d'expulsion. On sent que l'altérité, en ce moment, pose un problème vraiment permanent.
Et oui, jusqu'où le problème de fond, c'est jusqu'où on accepte l'autre, et son altérité et son étrangeté. Alors, ça pose un très très gros problème. Pendant très longtemps dans l'histoire, et l'époque dans l'Andalous a essayé de trouver à travers une tolérance, de codifier une tolérance. Mais la tolérance, attention, qui c'est qui en parle ? Je suis tolérant, je te tolère de là à là. Si tu dépasses ça, attention à toi. C'est ça la tolérance.
Alors donc, c'est un carcan.
Donc, c'est déjà une avancée, un petit peu. Donc, on ne te tue pas a priori. Mais attention. Et cette infériorité-là, donc qu'est-ce qu'on en fait de ça ? Et c'est grâce à une femme philosophe française, d'origine bulgare, Julia Kristeva, qui a écrit un livre superbe sur l'altérité et qui dit « Comment peut-on accepter l'autre, son étrangeté et son altérité ?» sans faire le travail sur soi-même, sur sa propre altérité, sur sa propre étrangeté. Et c'est là où est le travail à faire. Parce que souvent, on se pose en supérieur sans le savoir. Hein, et on va essayer de comprendre l'autre. Et souvent, comme à la période coloniale, l'autre, on le reconnaît, mais inférieur. Voilà. Qu'est-ce qu'il a nous apporté ? Pas grand-chose. Donc, et qu'est-ce qu'on fait avec la culture occitane et les autres cultures qu'il y a sur le territoire français ? On les élimine. Ça pose un très gros problème sur les écosystèmes culturels et linguistiques du monde qui peu à peu s'appauvrissent. On appauvrit le monde ici même. Or, il y a 1000 ans de culture sud-européenne et en rapport avec le monde africain par l'Afrique du Nord, notamment, qu'est-ce qu'on fait de ces 1000 ans d'histoire ? Eh bien, on élimine, ou on n'y accorde que peu d'attention, ou on en rit. Ça a fait rire beaucoup. Le méridional a fait beaucoup rire. Et donc, mais là, il faut revenir, il faut comprendre ça. Parce que le phénomène de domination, il n'est pas extérieur, il n'est pas ailleurs. Il est ici même. Et il est ici, en nous-mêmes, et notamment chez les mecs, et notamment avec la pulsion de domination et la pulsion de mort qui est chez le mal.
Bon, on a rien à rajouter là. On est d'accord.
On est totalement d'accord. C'est fou. Ouais. Voilà. Hyper important cette notion de conviventio. Et par exemple, tu disais on est toujours situé. On parle toujours de quelque part. Oui. Et c'est vrai. Enfin moi.
Il faut l'admettre.
Je suis arrivée il y a 30 ans à Toulouse et j'ai découvert avec épouvante en fait ce qu'avait vécu le peuple, enfin les gens qui se revendiquaient cathares. Mmh. Et tu en parles aussi dans ton livre. Et
c'est, oui, parce c'est que c'est l'acceptation de l'autre, de la spiritualité de l'autre, quoi, en fait. Or, là a été vécu, au XIIIe siècle, une forme d'anéantissement incroyable, puisque c'est une guerre de 20 ans, hein, de 20 ans pour réduire un peuple et le rendre obéissant, le soumettre à une conception autoritariste qu'on va appeler en France l'absolutisme, hein, qui va être particulièrement mis en avant à l'époque de Louis XIV. Hein. Souvent, on met en avant Louis XIV, etc. Mais il y a aussi l'absolutisme. Hein. Donc ça pose le problème de l'altérité ici même.
Tout à fait. J'aimerais aussi que tu reviennes un petit peu sur cette notion qu'on nous inflige aujourd'hui. On nous donne pas, on nous fait croire que c'est une forme de liberté partagée. Or, moi, j'ai le sentiment que ce terme que je vais dire, on nous l'inflige d'une manière très dure. C'est la laïcité telle qu'elle est entendue aujourd'hui.
Oui.
Moi, j'ai envie de vomir souvent quand j'entends vomicité. Enfin, j'entends laïcité
en quelque sorte dès l'origine aussi. Hein,
Oui. Alors, c'est vrai qu'il y a eu des essais pour un petit peu intégrer l'altérité. Et la laïcité, dans ses premiers temps, elle a consisté à ça. Elle a apporté quelque chose d'important. Mais elle l'a exclu, et elle l'exclut encore, mais il y a un travail, il y a plein de débats qui se font là-dessus, la culture et la langue de l'autre. D'accord pour les grands principes, mais dès qu'on touche à ça, là, on n'est plus d'accord. Donc, la convivialité inclut la tolérance, mais la dépasse, inclut la laïcité et la dépasse sur ces points-là. Et donc, c'est ça qui est important, et que la définition qui a été donnée avec le public de la MEJC, puisque ça s'est passé là en 2021 à Millau. Pourquoi Millau ? Parce que Millau a été une ville catalane, aragonaise, à l'époque, et qu'elle a reçu une charte du roi d'Aragon. D'ailleurs, c'était marrant d'en parler aux gens parce que personne ne la connaissait. Hein, une charte qui dit, déjà, fin 12e siècle, toute personne qui rentre dans la ville de Millau est déclarée homme libre. Ce qui est important, ils ont découvert ça en même temps, et on a pu sortir une définition qui est, pour le moment, parce que tout est évolutif, hein, pour le moment, celle que nous gardons et que nous projetons un peu partout, même avec, dans les milieux politiques et autres. C'est-à-dire, l'art, ça s'apprend, de vivre ensemble, c'est pas suffisant, dans le respect important, mutuel de l'altérité. Mutuel. Voilà.
Alors, des altérités posées au même niveau.
Et que chacun doit faire, de part et d'autre, ce travail d'accueil, etc. Donc, c'est pas une panacée, mais c'est un travail sur soi-même très, très important. On peut accueillir, mais si on accueille toujours sur le même propos en disant « Vous êtes accueillis par nous qui sommes supérieurs », sans le dire, ça va pas. Ça va pas. On continue quelque chose qui était de l'ordre colonial, quelque part. Donc, on a ce travail à faire de nous-mêmes. Et en faisant ce travail nous-mêmes, on propose à l'autre en face un même travail. Parce que sa culture, elle aussi, est traversée de contradictions, de choses extraordinaires, quelquefois, qu'on a oubliées et que nous oublions, nous, ou que nous ne voulons pas voir, mais aussi de choses tragiques et terribles. Hein. Donc, il faut les regarder en face. C'est pas parce que la culture occitane a subi elle-même de plein fouet quelque chose d'assez effrayant, qui a été répercuté jusqu'à aujourd'hui, dans l'histoire du monde. Mais eux aussi, qu'est-ce qu'on a fait ? On n'est pas blanc comme ça, on a des contradictions. Et il faut regarder nos contradictions en face également. Et c'est comme ça qu'on peut évoluer et changer. Et se connecter au monde.
On peut conclure peut-être sur ces propos et inviter nos auditrices, nos auditeurs à plus de développement dans les soirées que vous organisez avec le trio.
Voilà, le trio Andalus, d'ailleurs, c'est Andalus en occitan, et qui rappelle un peu, qui est un jeu de mots, hein, par rapport à Andalus, mais on peut faire le même Andalus en espagnol.
Va dans la lumière.
Voilà.
Donc je rappelle les dates à Toulouse le vendredi 8 mars 20h30 à Saint-Barésille. Donc on entendra Alem présenter son nouvel ouvrage, La Convivence.
Il y aura des ouvrages d'ailleurs.
Des ouvrages à acheter.
Allez, pas cher, 15 euros. On a voulu que ce soit accessible.
Pour un ouvrage qui fait presque 300 pages et qui nous éclaire beaucoup sur le passé et ce concept.
C'est une boîte à outils.
C'est une boîte à outils, voilà, c'est un guide. Hein. Voilà, c'est présenté par petits chapitres, voilà. C'est très facile à lire.
Oui, tout à fait.
Et c'est extrêmement nourrissant.
Avec l'éditeur Troba Vox Edition.
Voilà, et puis en deuxième partie de soirée, enfin je ne sais pas exactement si ça s'organise comme ça en deux parties, mais le trio andalous, enfin andalus, je ne sais pas comment...
Oui, comme vous dites les deux.
Voilà, avec Guillaume Lopez, Serge Lopez et Louis Navarro qui chantent ta poésie et l'ont mise en musique.
Et donc en rapport avec le thème de la convivence.
De la convivence.
Merci infiniment, Alem.
Merci beaucoup à vous, vraiment, pour votre écoute.
Merci Flore.
Merci Fatih.